Bon, Nation Sainte, royaume des sacrificateurs, comme promis, aujourd'hui nous allons aborder la notion de la Trinité. Mais un peu d'historique d'abord. C'est Théophile d'Antioche qui a introduit vers 180 pour la première fois le terme trias, qui sera traduit plus tard par Trinité pour désigner Dieu, son Verbe ou sa parole et sa sagesse, c'est-à-dire la triade Père, Fils et Esprit. Et ce dernier, à cette époque, signifiait la sagesse. Ce mystère, d'après eux, a été affirmé depuis le premier concile de Nicée en 325. Que veut dire la Trinité? C'est l'union des trois personnes divines. Dieu considéré dans son mode d'existence en trois personnes distinctes et consubstantielles, unies dans une seule et indivisible nature éternelle. Les trois personnes sont un seul et même Dieu parce qu'elles n'ont qu'une seule et même nature, une seule et même divinité. Qu'est-ce qui pose les fondations de la doctrine trinitaire? C'est, avance-t-il, ce qui est écrit dans Matthieu 28, 19 en ces termes. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'édit impérial de Théodose Ier, promulgué en 380, édicte que nous devons croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont une seule et même divinité, invoquée comme égale majesté et trinité bienveillante. Donc, tous ceux qui ne se plieront pas à cet édit impérial, que chez nous on peut appeler ici comme ordonnance présidentielle ou ordonnance loi, dans son empire, tous ceux qui ne se plieront pas à cet édit seront considérés comme des hérétiques. Déjà au concile de Nicée, l'Assemblée avait proclamé l'homoousios, c'est-à-dire la personne divine est dans ses trois natures strictement de même substance. Le Fils, entendez Jésus, est consubstantiel au Père, il existe de toute éternité. Voilà pour l'historique. Et voici maintenant les remarques. Dans le credo fixé par le Concile de Constantinople sous Théodose Ier, il est stipulé ce qui suit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mais dans ce credo apparaît clairement la grande confusion entre le Père et le Créateur. Grave erreur. Celui que le Créateur nous ordonne d'appeler Père éternel, Dieu puissant, le Prince de la paix, c'est son Fils unique, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné, conformément à Ésaïe 9, 5. Le Père éternel n'est pas tout-puissant, mais Dieu puissant, tandis que le Créateur est le tout-puissant. Le Père éternel n'est pas le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, mais c'est plutôt celui qui s'appelle Je suis, qui a créé toutes choses visibles et invisibles, y compris le Père éternel, bien qu'il lui ait attribué la divinité. Le Père éternel n'est pas un être individuel divin, mais une parole divinité. Le Créateur ne nous a jamais donné un nom pour l'appeler en dehors de Je suis. Vous comprenez donc que ce credo est nul. Ainsi donc, à partir d'aujourd'hui, ne faites plus de confusion entre le Créateur et le Père éternel, notre Dieu puissant. Et vous devez noter qu'ils avaient tripatouillé les Écritures pour insérer tout puissant partout, même là où elle ne parle que du Père éternel. Lorsque vous lisez la Bible, partout où vous voyez qu'il est question du Père associé à tout puissant, veuillez donc le caviarder et ne garder le qualificatif tout puissant qu'uniquement pour le Créateur qui s'appelle Je suis. Donc, tous les noms que l'humanité a attribués au Créateur comme Yahvé, Yahweh, Jéhovah et autres ne concernent que le Père éternel, notre Dieu puissant, qui nous a donné. Mais lui, il s'en tient à ce qu'il avait déclaré à Moïse dans Exode 3,14, dans ces termes. « Je suis celui qui suis, celui qui s'appelle Je suis. » Au concile de Nicée, l'Assemblée avait proclamé l'homoousios, c'est-à-dire la personne divine est dans ses trois natures, strictement de même substance, et le Fils, entendez Jésus, est consubstantiel au Père et il existe de toute éternité. Grave erreur encore. Mais c'est quand même étonnant d'écouter des hommes mortels qui connaissent la nature ou la substance du Créateur. Question. Comment ces hommes qui n'ont jamais vu le Créateur et qui ne le verront jamais, puisque demeurant éternellement invisible pour toutes les créatures sans exception, ont-ils pu connaître et définir et déterminer sa nature? Devons-nous croire en des absurdités pareilles? Ils avancent que Jésus est consubstantiel au Père, qui pensait être le Créateur, c'est-à-dire que Jésus avait la même substance que le Créateur. Question. Comment et pourquoi proclamer que Jésus, corps physique, a la même nature que le Créateur, alors que c'est une impossibilité éternelle qu'une créature puisse connaître la nature du Créateur qui est inimaginable? L'être suprême, dont la nature est inconnue et éternellement inconnaissable, c'est le Créateur. Mais curieusement, voilà des hommes qui prétendent connaître sa nature. Quelle monstruosité! Plus loin, je veux vous expliquer comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent être de même nature. Mais sur quoi s'était-il basé pour créer ce chaos, cette confusion insupportable? Mais c'est comme dit plus haut, c'est sur le verset Matthieu 28, 19 qui stipule, je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est donc ce verset qui est à la base de l'existence de la notion de la Trinité. Il vous importe de savoir ce qui suit. Ce Père n'est pas le Créateur qui s'appelle Je suis, mais plutôt le Fils unique du Créateur que nous devons appeler, sur instruction de celui-ci, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. C'est lui que le Créateur appelle David, sur l'épaule duquel repose la domination, et qu'il a établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Et ce Père n'est pas un être individuel divin, mais la parole divinité, Père éternel, Père des cieux. Ce Fils, ce n'est pas Jésus, mais la parole divinité, Fils du Père éternel, que Jésus avait enseigné aux apôtres et qui avait été complétée par la révélation du Créateur à Jean dans Apocalypse, sa prophétie d'accompagnement. et ce fils, comme son père, est donc une parole divinité. Pour le Saint-Esprit, remarquez qu'ils n'avaient tous aucune idée de ce qu'il était, y compris les apôtres. Mais vous devez savoir que la parole divinité Saint-Esprit est la connaissance divine céleste, alors que la parole divinité Fils est la connaissance divine terrestre. Le Saint-Esprit est la connaissance divine éternelle, tandis que le Fils est la connaissance divine terrestre temporaire, dont on n'entendra plus parler. En fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient des mots cachetés, dont voici les significations. Père éternel est l'identifiant caché de la parole divinité supracéleste ou la Jérusalem supracéleste. Saint-Esprit est l'identifiant caché de la parole divinité céleste ou la Jérusalem céleste. Fils est l'identifiant caché de la parole divinité Fils ou la Jérusalem terrestre. À ce stade, il est important que le mot « nom » soit décacheté. En effet, pour le Créateur, un nom, c'est une parole révélée. Ainsi, lorsque Jésus déclare dans Jean 17, 6, « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Il disait en fait, « J'ai fait connaître ta parole révélée aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et quand il parle de nom nouveau, il s'agit donc de la parole révélée nouvelle. Quand il dit que ceux qui s'appellent de mon nom, c'est-à-dire, il s'agit ici des personnes dont l'identifiant connaissantiel est sa parole révélée. C'est aussi cela sa gloire. Lorsqu'il dit que ce sont des gens que j'ai créés pour ma gloire, c'est-à-dire, ce sont des gens qu'il a créés pour sa parole révélée. Et vous savez, vous devez comprendre que, en fait, le baptême d'eau n'était qu'une ombre, une caricature, une transposition physique du véritable baptême qui est connaissantiel. Et donc, baptiser veut dire enseigner. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit signifie donc enseigner-leur la parole révélée Père éternel, la parole révélée Saint-Esprit et la parole révélée Fils. Remarquez que ces trois paroles ne sont pas envoyées au monde simultanément pour qu'on en baptise les hommes au même moment. Mais voici comment le Seigneur a programmé la montée en connaissance divine. Il avait d'abord envoyé à Israël la parole mosaïque et ses prophéties d'accompagnement. En second lieu, après plusieurs millénaires, il envoya le nom du Fils, c'est-à-dire la parole révélée Fils que Jésus avait enseignée, complétée par la révélation à Jean, sa prophétie d'accompagnement. Mais entre la parole révélée Fils et la parole révélée Saint-Esprit, il vient de s'écouler deux millénaires, au cours desquels le Créateur avait donné autorité à la bête sur les hommes de toute nation, toute langue, toute tribu. C'est donc les deux premières paroles divinité, les deux premiers livres de révélation qui vont parcourir le monde après être sortis d'Israël, mais impurifiés par la bête, et seront appelés par le Créateur Babylone, la grande prostituée. Ce sont eux, la Jérusalem terrestre, sur l'emblème de la prostituée. Et ces jours fâchés, c'est-à-dire les jours sous la domination de la bête, vont faire exactement 7 jours. Ce sont les 7 jours de la grande tribulation. Donc ce que l'Éternel appelle la grande tribulation, c'est tout simplement le temps au cours duquel la bête est en train de piétiner les deux premiers livres de la révélation divine, le parvis extérieur et le parvis intérieur de son temple connaissantiel. Et vous devez savoir que la bête, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, voir Apocalypse 20, verset 2, sont de simples noms collectifs qui désignent tous l'ensemble des fausses paroles et des fausses connaissances divines, les fausses interprétations, les affabulations, les fausses doctrines, et j'en passe. Et ici, il y a lieu d'insister sur le fait que, comme le monde n'a pas connu le Père éternel, il ne peut donc pas connaître son contraire. Maintenant que vous savez que le Père éternel, c'est la parole divinité Père, c'est-à-dire que c'est la vraie connaissance supraceleste divine, son contraire, Satan, la bête, le dragon, le serpent ancien, le diable, est tout simplement l'ensemble de toutes les fausses connaissances divines. L'ensemble de toutes les fausses paroles divines, l'ensemble des fausses interprétations, des affabulations, des fausses doctrines. Et vous comprenez déjà, et à partir d'ici, que Satan, tel que la bête nous l'avait présenté, ou le serpent ancien, comme un être individuel qui viendrait dans le monde, uniquement pour causer du tort aux êtres humains, pour contrecarrer les plans de Dieu en faveur des êtres humains, que cette notion de Satan, elle est tout à fait fausse. Nous y reviendrons plus loin, ou plus tard. Après l'heure de la bête, maintenant au troisième millénaire que voici, pour combattre la bête, le Créateur envoie maintenant la parole révélée Saint-Esprit, sa connaissance divine pure, sans ignorance associée, sans ivraie, qui doit régner dans le monde pendant 1000 ans, selon Dieu et non selon les hommes. Pendant ce temps, Satan, la bête, rentre progressivement en lui, qui forme la connaissance et qui crée les ténèbres, c'est-à-dire qui forme la vraie connaissance divine et qui crée les fausses connaissances divines. Au terme des 1000 ans, le Créateur va de nouveau relâcher la bête, entendez, les fausses révélations divines, pour combattre la parole divinité Saint-Esprit, afin de créer une nation pécheresse appelée Gog et Magog. Et là, c'est le temps des 3 autres jours de tribulation qui peuvent prendre quelques millénaires aussi. Après ces 3 autres jours de tribulation, le Créateur enverra alors le fauteuil blanc, la plus grande parole divinité, la parole révélée Père éternel, pour purifier complètement son temple. Notez ici que la première mort est intervenue lorsque le Créateur avait confié à la bête la mission de faire la guerre à ses 2 premières révélations, ses 2 premiers livres, les vaincre et les tuer. La bête a donc plongé les hommes de toute tribu, toute langue, toute nation dans les profondeurs de Satan, c'est-à-dire dans les profondeurs de l'ignorance. Donc, il s'agit ici donc d'une mort connaissancielle. Hein? Retenez bien, il s'agit d'une mort connaissancielle et non d'une mort physique. Maintenant qu'il envoie la parole révélée Saint-Esprit pour nous faire passer des ignorances à la vraie connaissance divine, c'est la première résurrection connaissancielle. La première résurrection connaissancielle. Il enverra pour la seconde fois Satan, la bête, pour faire la guerre à son sanctuaire, à son temple. Ce sera le temps de la seconde mort connaissancielle. Le temps de la seconde mort connaissancielle. J'insiste là-dessus, la seconde mort connaissancielle. Maintenant, à l'avènement de la parole révélée Père, aura lieu la seconde résurrection connaissancielle. La seconde résurrection connaissancielle. Notez que les deux premiers livres de Révélation sont l'ancienne Jérusalem terrestre qui est révolue, qui est passée. Maintenant, avec la révélation de cet esprit, démarre la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle parole. La nouvelle parole révélée. Et la nouvelle Jérusalem est composée de deux révélations. La connaissance céleste, qui est le Saint-Esprit, et la connaissance supra-céleste, qui est le Père éternel. La connaissance céleste, c'est l'ensemble, ou le Saint-Esprit, c'est l'ensemble de 12 grandes révélations à valeur de perles. Et la connaissance supra-céleste, c'est-à-dire le Père éternel, est l'ensemble de 12 connaissances à valeur de pierres précieuses. Voilà ce que je peux vous dire à propos du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, maintenant que vous êtes édifiés, où est la place de leur Sainte Trinité? La réponse, nulle part. Comprenez donc qu'en fabriquant cette Sainte Trinité, les conciles ont donc créé la mythologie chrétienne. La relation entre le Créateur et Israël était une relation révélationnelle. Je reprends. La relation entre le Créateur et Israël était une relation révélationnelle. Mais la bête et les conciles ont établi une fausse relation avec Dieu, avec le Créateur, basée sur la philosophie humaine, ce qui est un péché. Heureusement qu'aujourd'hui, le Créateur renouvelle sa relation révélationnelle avec les hommes par le biais de la révélation Saint-Esprit d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Merci.